Une saison de Formule C. Ce n'est pas facile de commencer cette histoire. Selon l'époque où vous l'écouterez, la Formule C sera peut-être encore un sport confidentiel, et même pire, un sport interdit, que seuls quelques aventuriers pratiquent en cachette. Mais peut-être qu'au contraire, pour peu que ce livre dorme chez vous depuis plusieurs années, vous connaissez déjà tout de la Formule C. Ce sport parmi les plus pratiqués au monde, dont la popularité dépasse largement le football chez les enfants, les femmes et les hommes. Ce sport qui a transformé les ennuyeux samedis après-midi en aventure hebdomadaire extraordinaire. Dans le doute, je vais choisir l'hypothèse selon laquelle la Formule C serait encore pour vous un sport inconnu. Formule C est un raccourci du terme « formule caddie ». Et cela vous met sur la piste. La formule caddie est un peu comme une course automobile, comme de la Formule 1 si vous voulez, mais en moins cher. Pas besoin de circuits bitumés ou de routes en lacets. Une manche de Formule C se déroule exclusivement dans un supermarché. Tout le monde peut la pratiquer, c'est son premier avantage. Son second, c'est sa simplicité. Le règlement d'une course de Formule C tient en 5 points. Le premier, les épreuves se déroulent entre moins d'une dizaine de pilotes par manche. Le deuxième, juste avant le départ, les pilotes se voient remettre par le directeur de course une enveloppe contenant une liste de 17 objets décrits précisément vendus dans le supermarché. Le troisième, sur cette liste, est également mentionné le numéro de la caisse d'arrivée. Le quatrième, c'est le directeur de course qui compose, dans le plus grand secret, cette liste. Le cinquième, le départ est donné sur le parking. Départ arrêté, caddie en ligne. Le vainqueur de l'épreuve est le premier à parvenir à la caisse d'arrivée en possédant dans son caddie les 17 objets de la liste. Voilà, c'est tout. Vous êtes paré pour vous lancer dans une épreuve de Formule C, ou presque. Il faut peut-être auparavant vous préciser quelques conseils tactiques. Toute personne ayant un jour conduit un caddie dans un supermarché se dit que ce n'est pas très difficile, qu'il n'y a pas besoin de permis, que c'est à la portée du premier venu. Dites-vous bien pourtant que la conduite de caddie en amateur n'a absolument rien à voir avec la pratique en compétition de la Formule C. Au départ, c'est une question de puissance. Le principe consiste à pousser son caddie le plus vite possible vers l'entrée, à la manière d'un champion de bobsleigh. Comme on ne peut généralement entrer qu'un à la fois dans un supermarché, à cause des portes automatiques, réussir son départ et parvenir en tête à la porte peut souvent être un avantage décisif. Néanmoins, cet avantage ne sert à rien si l'on ne domine pas parfaitement la conduite en magasin, une fois parvenu dans les rayons. Chaque pilote de Formule C doit gérer le voisinage des pilotes amateurs qui ne savent pas qu'ils participent à la course. Plus la fréquentation du supermarché est dense, plus la conduite exige du talent. Il s'agit à tout moment d'anticiper les mouvements des pilotes amateurs, les changements de directions imprévus des mamans débordées, les coups de frein brutaux des mamies fatiguées, les stationnements en double file des amis qui se rencontrent par hasard. Le pilote devra donc foncer, freiner, slalomer, estimer au plus vite les espaces et s'y engouffrer. L'objectif est d'aller vite, d'être rapide, le plus rapide. Or, plus vous êtes rapide, plus votre caddie est difficile à diriger et plus le risque d'accident est grand. Et le pilote ambitieux devra éviter autant que possible les collisions avec les pilotes amateurs. Même si, bien sûr, les queues de poisson ou les refus de priorité ne sont pas interdits, ils font même tout le charme de la compétition. Passer à la barbe des clients en rasant leur caddie, parvenir à doubler en pleine ligne droite un jeune papa pressé de corvée de course, s'engouffrer au culot dans le rayon alcool où les clients bouchonnent, déplacer un caddie qui gêne alors qu'un bébé est assis dedans, souffler à une mamie le dernier paquet de croquettes à chat, tous ces petits exploits font partie des sensations qui font tout l'intérêt et le succès de la Formule C. narguer les grandes personnes, les faire hurler. Elles aiment tellement cela. Leur donner un prétexte pour enfin se parler dans cette cohue anonyme.
Vous avez vu? Quel toupet! Des voyous! Des inconscients! Plus tard, ils feront la même chose. Avec une moto! Un jour, il y aura un accident. Si personne ne fait rien...
En fait, les grandes personnes sont jalouses. Elles s'ennuient dans le magasin. Les courses, pourtant, elles les font pendant leurs heures de temps libre. Le soir, le midi, le samedi. Ces heures de temps libre, durement gagnées grâce à leurs heures de travail, et qui deviennent du temps pas du tout libre quand il est passé à remplir un caddie. Des heures à se geler devant le rayon surgelé. Des heures à poireauter dans la queue des fruits et légumes. Des papas qui s'énervent parce que l'on passe trop vite devant leur rayon préféré et pas assez vite devant les autres. Des mamans qui s'énervent pour la même raison, mais pas devant les mêmes rayons. Des enfants qui s'énervent parce que l'on passe trop vite devant le rayon bonbon. Et là, c'est vrai, ils ont raison de s'énerver, puisque finalement, à eux, on leur cède toujours. Ce qui énerve encore davantage papa et maman, car eux, on ne leur cède pas. On ne leur cède plus depuis longtemps, car ce sont eux qui décident, et ils ne se cèdent plus à eux-mêmes. Alors ces aigles qui planent autour d'eux, qui volent majestueux entre les rayons, ça les rend fous, ça les agace au plus haut point que l'on puisse s'amuser et prendre du plaisir dans un tel endroit, que l'on trotte sur le pavé de leur chemin de croix, que l'on patine sur le carrelage de leur prison. Alors ils hurlent. Et les pilotes aiment ça, ça les motive. À condition de ne pas trop tirer sur la corde. Le pilote trop effronté court le risque de se retrouver bloqué par un des clients en colère. Tout accrochage, dont on ne peut éviter le constat, même à l'amiable, se transforme le plus souvent en course perdue. Toute l'astuce consiste donc à allier imprudence et bonne manière, à griller la politesse aux gens, mais poliment. À foncer comme un dingue, mais avec le sourire, en glissant des « Oh, pardon !»« Oh, excusez-moi !»« Oh, désolé !» tout en s'engouffrant comme si l'on était un caddie prioritaire équipé d'un gyrophare. C'est là que réside le véritable talent de pilote. La compétition vous tente ? Alors retenez ces quelques conseils techniques élémentaires, mais indispensables. Tout d'abord, le poids du corps du pilote doit systématiquement se situer à l'arrière du caddie pour faire contrepoids. Afin de n'avoir qu'à diriger les roues arrière, les roues avant doivent à peine toucher le sol. Ainsi, obtient-on des changements de direction idéaux. Dans un virage, le poids du corps doit toujours se situer à l'inverse de la direction du tournant, comme en ski. Sinon, si vous oubliez et que vous essayez tout de même de tourner sans freiner, il y a 9 chances sur 10 pour que vous vous retrouviez les 4 roulettes en l'air. La technique parfaite consiste à sentir à quel moment votre caddie commence à virer sur 2 roues et à balancer d'un coup votre corps à contrepoids. C'est la recette du virage sur 2 roues, technique haut de gamme réservée à quelques experts. Lorsque le caddie est lourd, c'est-à-dire quand il est plein, c'est-à-dire quand la fin de course approche, l'instant de rupture entre le dérapage contrôlé sur 2 roues et le vol plané est encore plus bref. Envie aux amateurs. Le bloc est une technique plus abordable, une technique de base que tout pilote, même débutant, doit posséder. Elle consiste à faire stopper net son caddie, à le faire piler, même lancer à fond dans un rayon dégagé. Il suffit de prendre subitement appui sur le montant du caddie et de placer simultanément la semelle de ses 2 chaussures sur les 2 roulettes arrière. Essayez, vous verrez, le bloc est immédiat, violent parfois lorsque le caddie est vivement lancé. Le fly est sans doute la figure favorite des pilotes, celle des sensations extrêmes. Vous avez sûrement déjà aperçu des enfants la pratiquer sur un parking. Vous prenez votre élan. Puis, quand la vitesse est suffisante, vous vous hissez sur votre caddie en prenant appui sur les pieds des roulettes et vous vous laissez rouler, tout chousse. Le gain de temps peut être considérable, mais il est proportionnel au risque encouru. Un caddie légèrement mal équilibré, un obstacle par terre, une roue qui se bloque, et c'est le vol plané assuré. Enfin, la reine des figures de style demeure le fly shop. La figure consiste à effectuer un fly dans un rayon et à saisir au vol, en pleine course, sans descendre du caddie, un des objets de la liste. Le fly shop demande à la fois de la technique, une excellente connaissance du terrain et une certaine part de réussite. En cas d'échec, vous finissez généralement en tonneau dans le rayon. En cas de réussite, par contre, ce sont les hurrahs du public, les félicitations des concurrents, l'interview en prime time par le journaliste qui suit la course. Je vais bientôt vous le présenter. Le fly shop, c'est la sensation du motard qui, en grillant le feu rouge, attrape le képi du gendarme. C'est le bébé qui gagne le pompon à son premier tour de manège. C'est cueillir un Edelweiss en deltaplane. C'est le faucon qui fond. Mais je m'aperçois que je me disperse et que toute cette théorie doit commencer à vous ennuyer. Vous en savez désormais assez pour pratiquer vous-même la formule C. Vous n'en avez toujours pas envie? Alors installez-vous tranquillement et laissez-moi vous raconter une saison de Formule C. Durant cette saison de Formule C, 6 pilotes s'étaient particulièrement illustrés. Il est peut-être plus simple de vous les présenter avant de vous raconter leurs exploits. Drac était le meilleur pilote de sa génération, quasiment supérieur à tous les autres dans tous les domaines. Son atout principal résidait en sa capacité exceptionnelle de concentration. Non seulement il était le meilleur, mais il savait s'en convaincre et en convaincre les autres. Imperturbable, on disait de Drac qu'il était trempé dans le même acier que son caddie. D'ailleurs, il était le seul pilote à posséder son caddie personnel, rangé dans le garage de ses parents. Avant chaque Grand Prix, il démontait son caddie, le huilait, le briquait, effectuait les réglages optimaux, le remontait. On racontait qu'il pouvait diriger son caddie d'un seul doigt. À cause de Drac, on avait longtemps cru qu'il n'y aurait aucun suspense dans cette saison de Formule C. Dico, qui, ceci dit en passant, était la première de la classe, ce qui ne lui était d'aucun avantage pour pousser un caddie, possédait l'avantage de connaître au rayon près l'ensemble des marchandises du magasin. Elle l'expliquait par sa mémoire exceptionnelle. Mais les autres concurrents l'expliquaient surtout par le fait que son père était sous-directeur du supermarché, ce qui lui permettait de s'entraîner le soir quand elle l'attendait et d'être au courant avant tout le monde des changements dans les rayons. Si Dico n'était pas très rapide dans la conduite de son caddie, son expérience lui permettait de choisir presque systématiquement le meilleur trajet. Malika, baptisée en course Magica, au contraire, savait tout faire avec un caddie. On disait d'elle qu'elle était la pilote la plus douée, peut-être davantage que Drac, moins efficace, mais sans doute plus talentueuse. Comme le ballon colle aux pieds de certains footballeurs, le caddie et Magica parvenaient à ne plus former qu'un. Elle raffolait des slaloms serrés, des percées dans les trous d'anguille, des demi-tours en plein rayon étroit et encombré. Elle en raffolait. Peut-être trop, c'était son principal défaut. Enzo, dit le bûcheron, dépassait d'une tête l'ensemble de ses concurrents. Le Grand Prix était réservé aux élèves de la classe, mais lui retriplait. Départ arrêté, il était imbattable. Il était le plus puissant et entrait systématiquement le premier dans le magasin. Ensuite, pour lui, ça se corsait. Il ne dominait ni le sens de la course, ni le sens de la conduite. De plus, sa puissance, souvent mal contrôlée, provoquait fréquemment des accidents catastrophiques. Megan, connue en compétition sous le nom de Meg Ange, ne possédait aucun talent particulier de pilote. Elle n'était ni rapide, ni puissante, ni expérimentée. Par contre, elle disposait de l'étrange faculté d'attirer la sympathie, notamment des grandes personnes. Était-ce son visage de poupée blonde? Était-ce son sourire qu'elle n'enlevait jamais, même pour dormir, même pour manger, même pour se laver les dents, il paraît. Était-ce cette façon de regarder les adultes de bas, mais les yeux tout de même baissés, afin de leur rappeler ô combien ils sont importants? Toujours est-il que Meg Ange pouvait quasiment tout se permettre avec les adultes sans aucune crainte de représailles. C'était un avantage non négligeable. Corentin, surnommé le Petit Prince, demeurait un mystère. Ni très rapide, ni expérimenté, ni rien du tout de particulier, il était pourtant le seul à résister à Drac. On disait Corentin protégé par les dieux des centres commerciaux. Il effectuait toujours le bon choix, il se trouvait toujours au bon rayon au bon moment. La chance? Non, la chance ne pouvait pas suffire. On soupçonnait Corentin de posséder un secret. Corentin était un garçon tellement secret. En fait, je vais vous l'avouer, il s'agissait d'un secret à quatre roues, répondant au nom de Sam. Enfin, il ne répondait au nom de Sam qu'à Corentin. Sam était un caddie déjà vieux, un caddie de la première génération ayant immigré avec le magasin. Bien qu'âgé, Sam conservait une souplesse que bien des caddies plus modernes lui enviaient, et des roulettes sûres et équilibrées, car c'est toujours par les roulettes que les caddies guettent anxieux leurs premiers signes de vieillesse. Jusqu'à présent, pour Sam, tout se passait comme sur des roulettes, comme il aimait le dire. Sam était un caddie sérieux, travailleur, mais dont la vie avait été aimablement chamboulée par Corentin. Qui peut mieux connaître un magasin, les changements de rayons, les habitudes des clients, qu'un caddie qui passe sa vie dans cet univers clos? En formule C, Sam était l'allié et l'atout de Corentin. Il lui indiquait lors de chaque Grand Prix le parcours idéal. Pour finir, Peggy, qui aimait qu'on l'appelle Peggy Scoop, s'était promue directrice de course. Personne n'avait protesté, au contraire, d'une part parce qu'elle était l'inventeuse de la formule C, d'autre part parce qu'elle était une excellente directrice de course. Peggy cumulait également les titres de reporter, d'archiviste, d'arbitre et de diverses autres fonctions moins importantes. La saison de Formule C se disputait en 7 grands prix. Mi-septembre, le premier grand prix, le Grand Prix des Moissons, fut remporté triomphalement par Drac. Le deuxième, le Grand Prix du Souvenir, à la Toussaint, vit à la surprise générale la victoire de Corentin. Lors du troisième, le Grand Prix du Scorpion, courant novembre, Drac reprit sans trembler le commandement de la compétition. Enfin, au cours du quatrième, le Grand Prix des Étoiles, à Noël, le trophée revint à un outsider, Dico Dico. Mais son succès fut entaché d'un parfum de scandale. Les rayons avaient été totalement chamboulés la veille de la course en raison des fêtes de fin d'année. Elle seule, grâce à son père, avait eu l'occasion d'un repérage, tandis que tous les autres concurrents s'étaient égarés, déboussolés, comme des rallymen du Dakar qui tentent de s'orienter en observant les dunes après une tempête de sable. Peggy Scoop, la directrice de course, fut intraitable. Une course ne se recourt pas une seconde fois. Avant le cinquième Grand Prix, Drac possédait néanmoins au total une confortable avance au classement général. Mi-janvier, le cinquième Grand Prix de la saison, le Grand Prix des Glaces, se présentait pour le mieux. Fidèle à son habitude, le bûcheron fut le plus prompt au départ, mais il marqua un temps d'arrêt à l'entrée du magasin. Sanction immédiate, Drac, Magica, Dico Dico, Corentin le doublèrent sans même lui jeter un regard. En cette fin d'après-midi d'un jeudi, après les fêtes, le magasin était presque vide. Rayon désert, espace dégagé, la course promettait d'être limpide. Rapidement, le groupe de tête se scinda en deux. Corentin tenta un parcours original, commençant par récupérer les objets géographiquement les plus éloignés. Il s'y dirigeait sans une hésitation, comme si les quelques secondes dont il avait disposé pour prendre connaissance des 17 objets de la liste lui avait suffi pour tracer avec précision dans sa tête le parcours optimal. Il ne se laissa nullement abuser par les pièges primaires contenus dans la liste, tels la boîte d'allumettes petit format. On la trouvait aux caisses, autant s'en saisir vers la fin. Le coup de la boîte d'escargot de Bourgogne en chocolat était plus tordu. On ne les trouvait pas dans le rayon confiserie, puisque après les fêtes, ils étaient encore exposés en promotion, en front de rayon, en face des fruits et légumes. Le piège planta un bon moment la plupart des candidats. Mais pas Corentin, qui, sans changer d'un pouce son itinéraire préalablement fixé, saisit au vol la boîte de chocolat en jaillissant du rayon primeur. Dico Dico, rusé, suivait Corentin comme son ombre, sans le lâcher d'une roulette. Elle avait peut-être elle aussi calculé ce parcours idéal. C'est sans doute ce qu'elle prétendrait après la course, pour se justifier. Pour l'instant, elle donnait simplement l'impression de sucer la roulette, comme on dit, d'un candidat plus inspiré qu'elle. Corentin ne bronchait pas, ne la regardait pas. Imperturbable, il ne lui demanda à aucun moment de prendre le relais. Dans un autre exercice de style, Drac et Magica se livraient eux aussi un beau duel. Plutôt qu'un parcours compliqué, ils avaient tous les deux choisi l'option d'enfiler les rayons dans l'ordre, un par un, en étant ainsi certains de ne rien oublier et de ne pas s'exposer à des demi-tours préjudiciables. La faible densité de clients leur permettait d'exprimer pleinement leur talent. À fond, Drac lancé, sans l'ombre d'une rupture de rythme, avançait avec puissance. Les rayons défilaient de chaque côté, comme quand on traverse en heure creuse les maisons grises d'un village construit en rang d'oignon le long d'une nationale. Mais Magica maintenait le contact. Multipliant les exploits techniques, les tournant sur deux roues, elle tenait, elle résistait, elle s'accrochait à la roulette de Drac. Parfois même, sur de courtes distances, elle parvenait à passer devant. Quand le parcours le permettait, sur une ligne droite suffisante et dégagée, on pouvait même apercevoir les deux pilotes lancés côte à côte, flanc à flanc, dans un long fly, se défiant du regard. L'arrivée se jugeait 15-15. Les caddies de Drac et de Magica contenaient les 16 premiers objets. Le 17e était un gel douche pamplemousse, presque en face de la caisse 15. Facile. Un dernier tournant, et ils entraient dans le rayon cosmétique. Les deux champions n'auraient plus qu'à se lancer dans le sprint final. Un dernier tournant. Forcément, ce fut Magica qui craqua la première. Drac, dans ces moments-là, ne faiblissait jamais. Magica commit la faute, une petite faute de rien du tout, dans le replacement du corps en fin de virage. Mais cela suffit à Drac pour prendre quelques mètres d'avance, 3 ou 4. 3 ou 4 de trop. C'était fini dans ce cas. Drac, on ne le revoyait qu'à l'arrivée. Dommage.
Dommage?
Non. Magica se sentait en forme. Plus que cela, elle se sentait invincible. Elle ne pouvait supporter d'avoir réalisé une telle course pour échouer si près du but. Elle savait qu'aujourd'hui, elle pouvait tout tenter. Aujourd'hui ou jamais. Elle s'imaginait tenir les rênes d'un cheval piaffant d'impatience. Elle poussa d'un coup son caddie en y mettant tout ce qui lui restait de force et se hissa avec souplesse sur le véhicule pour un fly d'une vitesse fortement déconseillée, même aux pilotes les plus chevronnés. Drac, quasiment arrêté devant le rayon, assurait la victoire. Il ne sentit Magica le dépasser que par le courant d'air qui souffla dans son cou. Presque à plat ventre sur le caddie, l'aérodynamisme, Magica lança la main au vol au nez de Drac vers l'étalage de gel douche. Dans son geste, elle ravagea l'étalage, faisant tomber par terre une dizaine de flacons. Mais elle tenait le gel pamplemousse. Un fly shop parfait à montrer dans les écoles. 17 objets. Et au bout du rayon, légèrement sur la droite, la caisse 15 et la victoire. La première de sa vie, la première d'une longue série. Au bout du rayon. D'ailleurs, le bout du rayon, se rapprochait très rapidement. « Ne pas s'endormir, » pensa Magica allongée sur son caddie. « Ne pas rêver encore, attendre un tout petit peu. » Il n'y avait heureusement personne dans le magasin. Elle avait le temps de se concentrer pour négocier son dernier tournant, avec diplomatie. Corentin surgit à cet instant précis, perpendiculairement au bout du rayon. Lui aussi possédait les 17 objets. Il avait pris le gel depuis belle lurette, parmi les premiers objets. La collision semblait inévitable. Il était trop tard. Le caddie de Magica allait trop vite pour tenter un bloc. Dans un dernier effort, Magica rejeta le poids de son corps à l'arrière de son caddie pour le ralentir un peu. Dans un ultime réflexe, Corentin et Sam, d'un coup de rein combiné, parvinrent à se propulser en avant dans une espèce de bond étrange, comme quand le cavalier et la monture ne font plus qu'un pour franchir une haie. Le sursaut fut suffisant. Ils passèrent d'un cheveu devant le caddie de Magica. Ils respirèrent, la voie était dégagée. Magica respira elle aussi en voyant Corentin léviter d'un souffle. Ce souffle lui soufflait la victoire, mais il lui évitait le pire. Elle souffla. Un instant seulement. Dico, toujours embusqué derrière Corentin, déboucha dans la seconde qui suivit. Ni Dico, ni Magica, surprise qu'un caddie puisse en cacher un autre, n'eurent le temps d'esquisser le moindre mouvement. Le caddie de Magica explosa celui de Dico et l'envoya valser sur la caisse 14, ce qui fit hurler la petite caissière avec les grosses lunettes. Dico s'en sortit indemne, même si son caddie lui fut arraché des mains. Par contre, Magica, toujours en flaille, décolla, s'envola un instant, retomba sur les fesses et glissa encore sur le dos devant 3 ou 4 caisses pour s'arrêter dans un étalage de cartes postales qui retombèrent autour d'elle en une neige de papier. Drac, imperturbable, franchit avec précaution le champ des décombres et alla tranquillement se ranger devant la caisse 15 pour prendre la deuxième place derrière Corentin. Meg Ange et Enzo le bûcheron arrivèrent quelques minutes plus tard. L'ensemble des concurrents ne s'éternisèrent pas, car la petite caissière à grosses lunettes, qui les avait justement retirées pour voir si elle ne rêvait pas, était partie en marchant très vite vers les bureaux, pour prévenir la direction ou pour donner sa démission. Mais il valait mieux ne pas attendre pour le savoir. Ils laissèrent les caddies pleins à proximité de la caisse 15. Bien entendu, ils ne passaient jamais à la caisse pour payer. Ils sortirent précipitamment, mais pas trop quand même pour ne pas se faire repérer. Sur le parking, ils écoutèrent Peggy Scoop faire les comptes et les commentaires. Malika boitait un peu. Au général, Drac conservait la tête du championnat, mais de peu devant Corentin. Il restait 2 grands prix à courir. Corentin félicita Sam pour sa course exemplaire et son incroyable saut final. Drac semblait mécontent du rendement de son caddie. Il l'avait mis sur le dos et faisait tourner les roulettes dans le vide, observant et écoutant je ne sais quoi. Peggy Scoop interviewait Magica, car le public aime les héroïnes malheureuses. Dico vérifiait les comptes de Peggy Scoop. Enzo le bûcheron s'entraînait au loin à pousser son caddie le plus vite possible. Meg Ange le suivait en courant pour l'excuser auprès des clients qu'il terrorisait. Enfin, Peggy Scoop rappela vers elle l'ensemble des pilotes pour leur donner rendez-vous à l'épreuve suivante, l'avant-dernière de la saison. « Le Grand Prix de l'Équinoxe, » déclara Peggy, « aura lieu le samedi 21 mars à 16h. » Les visages des pilotes se figèrent. Tous, sauf peut-être ceux de Magica et de Meg Ange, et sauf celui de Drac qui était toujours figé. « Le samedi ? À 16h ?» Le samedi après-midi, tout le monde le sait, c'est le jour le plus fréquenté de la semaine, surtout vers 16h. « Ça va être le carnage !» murmura le bûcheron, inquiet. « C'est la seule heure où il faut éviter le supermarché !» renchérit Dico. « Mon père me le dit toujours, et il s'y connaît !» Peggy fut intraitable. Il y avait des courses faciles, comme aujourd'hui, et des courses plus difficiles. C'est ce qui faisait l'intérêt de la compétition. Et puis, aucun pilote n'était obligé de venir. Chacun avait le droit de se dégonfler. Magica souriait. Le Grand Prix de l'équinoxe promettait d'être technique. Meg Ange aussi. Il allait falloir faire preuve de diplomatie. Un samedi vers 16h. Si vous aviez la chance, rien qu'une fois, d'être géant et de pouvoir observer le monde d'en haut. Si les supermarchés n'avaient pas de toit, comme les marchés qui ne se vantent pas d'être super. Ou si vous pouviez découper ce toit en tôle ondulée, ce qui ne serait pas dur. Si vous étiez géant, pas plus dur que d'ouvrir une boîte à sardines. Si tout cela était possible, alors vous pourriez observer de haut un supermarché un samedi après-midi, et je pense que vous pourriez le confondre avec une fourmilière. Avec des tas de gens tout petits qui courent dans tous les sens, qui viennent, qui se chargent, qui repartent aussi vite pour laisser la place à d'autres. Des tas de gens tout petits qui se croisent et s'entrecroisent, mais sans jamais se cogner ni se parler, parce que le fouillis des fourmis est organisé et silencieux. Des gens seuls, le plus souvent, qui ne s'attardent guère, puisqu'ils ont compris qu'on rencontre rarement l'amour de sa vie entre le rayon fromage et le rayon charcuterie. Des familles aussi. Comme dans un supermarché, il n'y a ni passage clouté, ni priorité à droite, ni petits bonshommes rouges et verts, les enfants n'osent guère s'éloigner du caddie. Ils s'accrochent aux barreaux. Ils ont peur de se faire renverser, d'autant plus que les seules informations données par la radio du supermarché sont les annonces des enfants perdus. Bien sûr, ce n'est pas vrai. C'est uniquement pour faire peur aux enfants, pour qu'ils restent accrochés au caddie de leurs parents. Et ça marche. Alors les enfants s'accrochent d'une main au caddie et de l'autre mettent dedans toutes les choses qui défilent à hauteur de leurs yeux et qui leur plaisent. Les parents, d'une main, conduisent le caddie et de l'autre replacent patiemment sur le rayon ce que les enfants ont pris. Parfois, quand les parents possèdent une troisième main, ce qui heureusement pour les enfants est rare, ils s'en servent pour gifler l'enfant et alors, tout d'un coup, la fourmilière n'est plus du tout silencieuse. Vers 16h01 ce samedi, 6 fauves hurlants se ruèrent dans la fourmilière silencieuse. Le bûcheron en premier. Confiant, il surgit du parking en tête. Dans l'instant suivant, il dut bloquer bruyamment les 4 roues de son caddie. La fourmilière était au point mort. Devant lui s'élevait un mur de caddies et de clients immobiles, comme une barricade improvisée. Un bouchon, sans les klaxons, à chaque rayon. Comme prévu, la fourmilière grouillait de monde. Le terme de « grouiller » était d'ailleurs particulièrement impropre, car il était absolument impossible de se grouiller. De même que le terme de « course » semblait tout aussi mal choisi, ou alors des courses d'escargots. Les autres pilotes surgirent à leur tour, hésitèrent. Tous. Tous, sauf Magica. Sans réfléchir, telle une anguille, Magica fonça dans la cohue, se faufilant entre les caddies immobiles, les bousculant à peine. La course lui semblait promise. Magica se grisait. Au fond d'un rayon un peu délaissé par la foule des clients, Magica se permit même un fly en sécurité, pensait-elle. Elle dépassa ainsi tout chousse un client perdu, un monsieur tout en gris. Certains adultes détestent voir les enfants s'amuser. Allez savoir pourquoi. Sûrement pas par jalousie, parce que le monsieur en gris ne donnait pas l'impression de regretter de n'avoir plus le temps de s'amuser. Peut-être par sadisme? Le monsieur en gris attrapa le caddie de Magica et cria. Le monsieur en gris qui criait portait un chapeau sur la tête. Dans un magasin, cela n'est pas poli. Et un mégot aux lèvres. Dans un magasin, c'est interdit. Le service d'ordre accourut. En uniforme orange et bleu, mais en uniforme quand même, comme toutes les polices du monde. Le monsieur en gris avait pris le temps d'ôter son chapeau et son mégot. Il ne restait qu'un discret nuage gris, que les hommes en orange et bleu feignirent de ne pas voir, en baissant les yeux sur Magica. La punition était connue de tous les pilotes de Formule C. Il ne servait à rien de s'expliquer, d'argumenter. Celui qui a le caddie le plus plein a toujours raison. Exit Magica. Fin de course sur le parking. Logiquement, Corentin et Drac distancèrent rapidement tous les autres concurrents. Dico s'accrocha un moment à eux, mais se retrouva elle aussi hors course suite à un incident malheureux. Elle fut happée au bout du rayon bricolage par Jacqueline, la chef de rayon, une collègue de son papa et surtout une amie de sa maman. Comme elle ne voyait pas souvent la maman de Dico, que le papa de Dico n'était pas bavard et que Jacqueline l'était, elle l'agrippa au moment où elle passait le plus vite possible devant elle.
« Oh, mais c'est la petite Dico! Cela faisait longtemps que l'on ne t'avait pas vue. Ma chérie, ce n'est pas raisonnable d'aller si vite dans les rayons. Tu vas causer un accident. Et ta maman, Dico? Comment va ta maman ?»
La course s'arrêta aussi à cet instant pour Dico. Comme quoi jouer à domicile n'est pas toujours un avantage. Pendant ce temps-là, Drac avait suivi Corentin quasiment toute la course. Il savait qu'aujourd'hui, puisqu'on ne pouvait pas aller vite, c'est le choix du parcours qui comptait. 16 objets, dernier virage, dernière ligne droite. Il ne restait qu'un kilo de riz à attraper. Le rayon était d'ailleurs assez dégagé. Sans problème, Drac dépassa Corentin. Il était plus puissant, plus rapide. Il connaissait la route maintenant. Il accéléra, doubla Corentin et se détacha pour une victoire certaine. Corentin sentit alors monter en lui le même sentiment que Magica au Grand Prix précédent. Tout tenter, mais ne pas perdre ainsi bêtement, si près du but. Un fly shop? Pourquoi pas? Pourquoi n'en serait-il pas capable lui aussi? Décidé, il s'élança, grimpa sur Sam bien à plat et visa le kilo de riz. Drac avait pris le sien seulement quelques secondes auparavant. Rien n'était encore perdu. Un rien suffit à déséquilibrer un caddie. Comme un skieur lancé qui touche un caillou, un caddie se bloque au moindre obstacle, à la moindre petite saleté qui traîne, au moindre grain de riz. Il y avait un kilo de riz par terre. Le paquet était tombé éventré et le riz s'était répandu. Corentin ne le vit qu'au dernier moment, une fois à plat ventre sur Sam. Curieusement, il ne l'avait pas remarqué avant. Trop tard. Les deux roulettes avant de Sam se bloquèrent. Sam et Corentin partirent en toupie et terminèrent leur manège en face dans le rayon des conserves. Drac passa alors facilement en tête à la caisse 9. Meg Ange termina deuxième, juste devant Dico, qui était finalement parvenu à se sortir des griffes de Jacqueline, ou plutôt de ses ongles vernis et de ses bisous collants. Corentin commençait à peine à se relever. Il n'avait mal nulle part. Il se pencha aussitôt vers Sam et tenta de le remettre sur ses quatre roulettes. Apparemment, Sam tenait debout. Corentin essaya alors de le faire rouler, mais la roulette avant droite tournait dans le vide, à toute vitesse. Il fallait déployer une énergie considérable pour faire bouger Sam. Quant à le faire rouler droit, il valait mieux ne pas y penser. Corentin tenta néanmoins de faire avancer Sam en dissimulant ses efforts, s'épuisant à le pousser, mais comme si de rien n'était.
« Ce n'est pas la peine, Corentin, » fit doucement Sam.
« De quoi ?»«
De te fatiguer. »«
De quoi ?»«
De te fatiguer à faire semblant. À faire semblant de ne pas être fatigué, de me pousser. »«
Ça m'entraîne pour le dernier Grand Prix, dans un mois. »«
Pour moi, le dernier Grand Prix, c'était celui-ci. »«
Qu'est-ce que tu racontes ? Tu plaisantes ? On joue le titre dans un mois. »
Tu joues le titre, mais sans moi. Regarde-moi et réfléchis. C'est fini. Me pousser est une galère. Me pousser droit est impossible. Imagine en course, nous n'aurions pas parcouru de rayon que les autres seraient déjà à la caisse d'arrivée. C'est terminé. Comme un athlète qui s'est brisé une jambe, ça ne lui sert à rien de croire les médecins qui affirment qu'il recourra un jour. Je ferai désormais partie de ces caddies que l'on évite, qu'on maudit quand on les tire au sort avec une pièce d'un euro, qu'on essaie de refiler dans le magasin en piquant un œuf.
Ne dis pas n'importe quoi,
répondit Corentin.
On va te soigner. On a un mois pour te soigner.
On ne soigne pas les caddies trop vieux. Nous sommes faits d'un seul bloc d'acier. Quand nous sommes tordus, c'est foutu.
Je m'en fiche,
répliqua Corentin.
Hors de question que je cours seul le dernier Grand Prix. Sans toi, je n'ai aucune chance.
Si tu veux, je peux te recommander un ou deux jeunes caddies. Rapides, expérimentés, pas mauvais.
Non,
répéta Corentin.
Hors de question. J'ai commencé la saison avec toi, je la finis avec toi. T'es le meilleur caddie du supermarché. Il n'y en a pas deux avec ta mémoire. Sans toi, je ne serais pas monté une seule fois sur le podium.
Tu es fou. Tu vas être ridicule avec un caddie boiteux. Et je vais être ridicule, moi aussi.
Je m'en fiche. On forme une équipe. Jusqu'au bout. Et de toute façon, Drake est certain de gagner le titre maintenant, quel que soit le résultat de la dernière course.
Ça, c'est une nouvelle encore pire que mon accident. Drake champion.
Pour le riz, Sam. Le paquet est ventré. Tu crois que c'est lui? Tu penses que c'est un accident ou il l'a fait exprès?
Il sera pour toujours le seul à le savoir.
Il ne l'avouera jamais?
Non, et son caddie non plus. Il est encore pire que Drake. Il ne nous adresse plus la parole depuis qu'il ne dort plus avec nous sur le parking. Sa place réservée dans le garage de Drake lui est montée à la tête.
Tu vois, tu as encore envie de te battre. Tu as un mois pour revenir au top.
Tête de mule. On se sera battu toute une saison pour des cacahuètes.
Pour des grains de riz,
conclut Corentin, qui avait un peu recouvré le sourire. Le discours de Peggy Scoop fut particulièrement émouvant. Elle conclut sur le cas de Magica et du monsieur en gris. Elle déclara sérieusement qu'une opération Beluga s'imposait. Les pilotes furent tous d'accord. L'opération Beluga est une mesure rare votée par le comité d'organisation d'un Grand Prix pour punir un client ayant porté, sans raison valable, un grave préjudice à un pilote. Le monsieur en gris fut rapidement localisé dans le magasin. Il traînait au rayon alcool. Il faisait son choix. C'était bien lui. Il avait ressorti chapeau et mégot. Sa femme, en gris aussi, l'attendait avec patience à côté. Il fit enfin son choix. Fier. Il mit dans le caddie 3 litres de vin à 3 euros en expliquant à voix basse à sa femme qu'il réalisait l'affaire du siècle. L'occasion était trop belle pour l'opération Beluga. Meg Ange et Drake suivirent la ligne grise du monsieur tandis que Magica choisissait les bouteilles de vin les plus chères du rayon. Elle dénicha 3 bouteilles de Bordeaux à 75 euros. Magica profita de ce que la dame du monsieur en gris était occupée au rayon papier toilette à dénicher l'affaire du siècle pour échanger les bouteilles. Peu après, Dico Dico, Meg Ange et Enzo le bûcheron déposèrent discrètement dans le caddie du couple gris quelques toutes petites conserves, du caviar, du foie gras, le meilleur. Quand les enfants font des blagues, le problème, c'est qu'ils ne savent pas s'arrêter. À la caisse, on est pressé. On ne fait jamais attention à ce que l'on vide sur le tapis. On entasse tout vite fait, surtout quand il y a la queue derrière. Et il y avait une sacrée queue derrière. Le monsieur et la dame en gris déchargèrent à toute pompe. La caissière bleue et orange alla encore plus vite. Bip, 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 bip. 423,51 €.
Quoi?
S'étrangla la dame grise de surprise. La caissière tendit le ticket. Ils vérifièrent. La queue grondait derrière.
« Vous vous êtes trompé sur le vin !»
fit sèchement le monsieur gris de dépit. La caissière lui lança un regard glacial qui signifiait « Je ne suis peut-être qu'une petite caissière et vous un monsieur en gris très important, mais mon métier, je le connais mieux que vous. » Elle vérifia pour le principe. « Il n'y a aucune erreur, monsieur. » Ils fouillèrent dans les sacs et finirent par trouver les bouteilles. La dame grise, de rage, cria fort après son mari gris de honte. On entendait parler d'affaires du siècle. Le monsieur nerveux avait sorti une cigarette. La queue grondait de plus en plus. Elle ne s'allongeait pas, au contraire, les gens ne sont pas fous. Mais toutes les autres queues autour rapetissaient. et c'est ce qui énervait plus encore les gens coincés de la file. La dame grise s'en prenait à son mari, comme souvent sans doute. Son mari s'en prit alors à quelqu'un d'autre, comme souvent sans doute. Il cria fort sur la petite caissière bleue et orange, parla d'escroquerie, de scandale, voulait échanger les bouteilles, refaire un nouveau ticket, tout ressortir des sacs plastiques, tout vérifier. La queue menaça d'exploser. Elle envisageait même le passage en force. C'est alors que le service d'ordre apparut, en uniforme bleu et orange, mais en uniforme quand même, comme toutes les polices du monde. Ils firent remarquer au monsieur son chapeau et son mégot. C'est la consigne. Ils firent remarquer au monsieur son chèque, 423,51 €. C'est la consigne. Ils firent dégager le couple sur le parking, s'excusant auprès du reste de la file. Quant aux bouteilles de Bordeaux à 75 €, elles risquent sans doute de prendre encore de la valeur. La dame en gris n'est sûrement pas prête de laisser son mari boire du vin à 1 € la gorgée. Voilà, ça s'appelle une opération Beluga. C'est imparable. Testez, vous verrez. Les pilotes prirent rendez-vous pour le dernier Grand Prix de la saison, le 2 mai, le Grand Prix de la Rose, un mercredi, vers 18 h. Il faisait chaud, très chaud, ce 2 mai. La course promettait d'être torride, sauf pour la première place. Pour le titre, le sort en était jeté. Drac possédait trop d'avance sur Corentin, son poursuivant immédiat. Pour que Corentin devienne champion de Formule C cette saison, il fallait non seulement qu'il gagne le Grand Prix, mais également que Drac termine dernier de la course. Il ne fallait pas rêver. D'autant plus que Sam ne s'était pas remis de son accident. Au contraire, l'état de sa roulette avant droite avait tendance à empirer, et la roulette avant gauche commençait à son tour à montrer des signes de faiblesse. Mais Corentin n'avait pas cédé. Il courrait avec Sam quoi qu'il arrive. Il voulait croire au miracle. Le départ fut donné sous la canicule et les concurrents se ruèrent vers les rayons climatisés. Le miracle ne se produisait pas. Tous les pilotes respiraient déjà l'air frais de la galerie marchande quand Corentin poussait encore Sam sur le parking de toutes ses forces, de toutes ses gouttes de larmes et de sueur. « Ne te fatigue pas !» suppliait Sam. « Ce n'est pas grave, laisse tomber !» Corentin ne répondait pas. Il ménageait son souffle. Il finit tout de même par entrer dans le magasin. Il n'avait encore pris aucun objet. Il croisa Meg Ange qui le gratifia d'un sourire. Elle avait déjà 7 objets dans son caddie. Il croisa juste ensuite Drac qui le gratifia d'un regard noir. Il possédait 12 objets dans son caddie. Le miracle se faisait attendre. Courageux, Corentin continua sa course et joua le jeu autant qu'il put. Corentin était parvenu à recueillir 4 objets, fier, quand il vit passer en un éclair Magica avec 15 objets, puis en un tonnerre Drac avec 16 objets. Le miracle était très en retard. Il avait peut-être oublié de venir. Il n'avait peut-être pas noté la date. Il ne restait plus qu'un objet à Drac, et il en avait fini avec une saison de Formule C rondement menée. Le dernier objet, 1 litre d'eau minérale, était l'objet le plus lourd. Pour cette raison, tous les pilotes avaient décidé de le prendre en dernier. Drac se gara tranquillement dans le rayon eau minérale. Avec calme, il allait recueillir son dernier objet. Il se pencha, stupeur. Le rayon d'eau minérale était vide, totalement vide. Drac chercha autour, rien. Magica déboucha à son tour au rayon eau minérale, muni de ses 16 autres objets, plutôt contente de voir Drac bloqué. Mais elle ne trouva pas plus d'eau minérale. Corentin passa sur 3 roues. Il avait récupéré 7 objets. Drac et Magica fouillèrent les rayons alentour, cherchèrent la ruse, la feinte de Peggy Scoop, ne la trouvèrent pas. Dico les avait rejoints avec ses 16 objets, plutôt contente de voir Magica et Drac bloqués. Mais elle ne trouva pas plus d'eau minérale. Corentin passa en grinçant. il possédait 10 objets. Mégange et le bûcheron parvinrent à leur tour, avec leurs 16 objets, au rayon eau minérale, plutôt contents de voir Drac, Magica et Dico Dico bloqués. Mais ils ne trouvèrent pas davantage d'eau minérale. Dico Dico s'était renseigné. À cause de la canicule, les gens s'étaient rués sur l'eau. Rupture de stock depuis ce matin. Il n'y en avait plus, même en réserve. La course était bloquée, bien bloquée. Si c'était là le miracle attendu, il venait déguisé. Corentin passa, déshydraté, il en était à 13 objets. Les autres pilotes, très énervés, allèrent chercher Peggy Scoop. « Il faut juger l'arrivée au 16e objet, » déclara Drac, qui pourtant parlait peu. « Il faut annuler la course, » suggéra le bûcheron en nage. « Impossible, » décida Peggy. « Quelles que soient les circonstances, on ne change ni la date, ni le lieu, ni les objets. C'est le premier article du règlement de la formule C. »«
Mais puisqu'il y a rupture de stock, »
gémit Dico Dico.
« Débrouillez-vous, un point c'est tout. Et s'il n'y a aucun vainqueur, tant pis !»
Ils restèrent devant le rayon vide, interdit, incrédule. Peggy Scoop ne changerait pas d'avis, ils le savaient. Elle était une organisatrice de course parfaite. Trop parfaite, parfois. Drac se disait que si la course s'arrêtait là, sans vainqueur, ce n'était pas très grave pour lui. Il serait champion tout de même. Brusquement, une mouche piqua Dico Dico qui quitta le groupe. J'aurais dû la suivre, se dit Drac, mais il était trop tard. Tout aussi brusquement, une autre mouche, ou la même peut-être, piqua Meg Ange, qui s'éclipsa également. Où va-t-elle aussi celle-là? Se dit encore Drac. J'aurais peut-être dû la suivre elle aussi. Drac était plus nerveux que d'habitude. Il n'aimait pas beaucoup l'imprévu. Enfin, il n'y avait rien de grave, tant que Corentin était derrière lui. Justement, à ce moment-là, Corentin, épuisé, rejoignit K1 K1 le groupe. Il avait enfin ses 16 objets. « Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de flotte, plus une goutte. » Corentin demeura silencieux. Le miracle lui proposait un match nul. Mais ni Corentin ni Sam ne se contentaient de ce résultat.
« Corentin !» glissa la voix douce de Sam. « Écoute-moi discrètement. »
De toutes les façons, seul Corentin pouvait l'entendre.
« Ce matin, un petit vieux m'a tiré au sort, le pauvre. Il en a bavé. J'ai même cru qu'il allait me faire une crise cardiaque. Plus il me remplissait, et moins il parvenait à me conduire. À la fin, il était carrément bloqué au milieu du magasin. Remarque, il était plutôt sympa. Il se contentait de m'insulter du genre « saleté de canille ». Maintenant, la plupart des clients me donnent des coups de pied pour me faire avancer. Enfin, je te disais, le petit vieux était bloqué. Alors, pour parvenir aux caisses, il a été obligé de me délester. Il a retiré le produit le plus lourd et le moins cher, 6 bouteilles d'eau minérale, et il les a laissées où il pouvait, où il était, un peu caché parce qu'il avait honte. Dans le bac à surgeler. C'était ce matin. Avec un peu de chance, elles y sont encore.
Corentin, l'air de rien, tenta alors de quitter le groupe. Ne pas attirer l'attention, ne pas se précipiter. De toute façon, pensait Corentin, vu l'état de Sam, se précipiter, il n'y a pas de danger. Le handicap de Sam le faisait maintenant sourire. C'est finalement grâce à lui qu'il allait peut-être gagner la course. Le miracle surgissait, au loin. Encore un petit effort. Il s'éloigna du groupe. Drac réagit à ce moment-là. « Celui-là, je ne le laisse pas partir seul. » C'était la règle d'or de Drac. Quand on ne peut pas aller plus vite que Corentin, il faut le suivre, car il sait ce que les autres ne savent pas. Drac se lança à sa poursuite sans savoir pourquoi. Sans savoir davantage pourquoi, le bûcheron et Magica démarrèrent à leur tour, car la règle d'or de Magica était de suivre Drac, et la règle d'or du bûcheron, de foncer devant les autres. Corentin possédait à vue de nez un demi-rayon d'avance. Il se pencha sur le rayon des surgelés. Les 6 bouteilles d'eau minérale attendaient, grelottantes, à peine reconnaissables sous le givre. Il était trop tard pour feinter. Corentin sentait la meute à ses trousses. Sans chercher à se dissimuler, il prit la première bouteille à la vue de tous et accéléra tant qu'il put vers la caisse 3 où se jugeait l'arrivée. Elle était encore loin, la caisse 3. Sam fit des efforts étonnants pour garder sa ligne. Corentin l'encourageait d'une voix essoufflée. Plus qu'un rayon, un dernier effort. On ne peut pas perdre maintenant. Mais derrière, le groupe de chasse s'activait. Plus puissant, le bûcheron se détacha rapidement. Il prit sa bouteille surgelée et se rapprocha vite, beaucoup trop vite, de Corentin. Corentin ne voulait pas se retourner. Il l'avait vu à la télé dans les courses cyclistes. Il ne faut jamais se retourner si l'on veut gagner un sprint. Sauf que pour disputer un sprint, il faut au moins être 2. Corentin, épuisé, n'avançait pratiquement plus. S'il ne s'agissait pas de Formule C, on aurait pu croire à une panne d'essence. Il restait un bon demi-rayon avant la caisse 3, et le bûcheron talonnait déjà Corentin, prêt à le doubler. « La fontaine est un menteur !» pensait Corentin. « La tortue ne gagne jamais contre le lièvre !» Le miracle ne semblait avoir fait qu'une courte visite dans le magasin. Il était visiblement pressé et déjà reparti. Corentin aperçut en un éclair le long des caisses, sortant d'on ne sait où, presque arrivé à la caisse 3, Meg Ange et Dico au coude à coude, avec chacune une bouteille d'eau. En fait, Corentin ne le savait pas, Meg Ange avait fait le tour des clients jusqu'à trouver celui qui avait pris la dernière bouteille d'eau avant la rupture de stock. Le convaincre ensuite de céder sa bouteille d'eau fut un jeu d'enfant pour Meg Ange. Des médicaments à prendre, de façon très très urgente, pour sa maman malade sous la canicule. Dico savait que par ce temps, dans les bureaux, ceux de papa ou de Jacqueline, il y avait forcément une ou deux bouteilles d'eau de réserve. Elle était allée demander. À la place du miracle, je n'aurais pas été fier. Corentin était planté, et au minimum 3 concurrents allaient lui souffler la victoire. Tout se déroula alors très vite. Le bûcheron, toujours lancé à fond, voulut dépasser Corentin. Mais si le bûcheron brille par sa puissance, comme je vous l'ai précisé depuis le début de cette histoire, il possède par contre une conduite très approximative. Il évalua mal l'espace dont il avait besoin pour le dépassement, et au lieu de doubler Sam, le frappa de plein fouet par derrière. Le choc propulsa Sam à une vitesse que Corentin n'aurait jamais pu atteindre seul. Corentin eut juste le temps de se hisser sur son caddie bancal. Ils filèrent alors en un fly final sans possibilité de freiner pour aller s'exploser en un vacarme assourdissant sur la caisse 3. La petite caissière à grosses lunettes de la caisse 15, à qui, manque de chance, on avait confié aujourd'hui la caisse 3, hurla elle aussi, ce qui n'arrangea rien à la cacophonie. Un peu plus, et Corentin finissait à plat ventre sur le tapis roulant de la caisse 3, prêt à se faire passer au rayon optique par la caissière terrorisée. Mais là, vous ne me croiriez pas. Vous trouveriez que c'est exagéré. En réalité, Corentin se retrouva les 4 fers en l'air, si l'on peut dire, car l'expression conviendrait mieux à Sam, au beau milieu de l'allée, devant les caisses. Les passants qui passaient s'attroupèrent, puis se dispersèrent, puisque Corentin ne semblait pas blessé. Sam non plus n'avait pas trop souffert, mais de cela les passants s'en fichaient. Meg Ange souffla d'un quart de roulette la 2e place à Dico. Le bûcheron repartit de plus belle, accrocha une 4e place méritoire, en allant à son tour s'exploser sur la caisse 3. La petite caissière en perdit ses lunettes et la barrette qui retenait son chignon. Les cheveux longs sans lunettes, elle rajeunit d'un coup de 15 ans. Enfin, dans un fly d'une grande pureté, puis d'un bloc impeccable qui s'acheva à quelques millimètres de la caisse, plus un sourire à la dame, pardon, à la demoiselle, Magica apparut rayonnante, même si elle n'accrochait qu'une 5e place. En effet, Pour la première fois, elle était parvenue à devancer Drac dans le sprint final. Drac n'obtint donc que la sixième et dernière place, la pire, celle qui lui fit perdre le titre de champion de l'année de Formule C, au profit d'un miraculé, Corentin et son caddie boiteux. Corentin et son caddie boiteux! Quel beau titre, commençait à se féliciter Peggy Scoop. Une aubaine, une légende allait naître. Néanmoins, le titre fut attribué dans la confusion générale. En effet, la jeune et jolie caissière de la caisse 3, ni compréhensive ni solidaire, avait dû discrètement appuyer sur un bouton secret, celui qui sert surtout en cas de hold-up pour appeler le service d'ordre en uniforme bleu et orange, mais en uniforme quand même, comme toutes les polices du monde. Ni les relations de Dico Dico, ni le sourire de Meg Ange, ni le baratin de Peggy Scoop n'infléchirent la détermination de la milice. Les héros de la Formule C se firent fichés, menacés, puis expulsés comme des voyous du grand magasin. Peggy Scoop, sur le parking, ne fut pas prise de court, bien au contraire. Ce n'est pas grave, deux saisons de Formule C ne doivent jamais se dérouler dans le même centre commercial. Ce serait contraire à l'article 2 du règlement. L'année prochaine, la saison de Formule C se déroulera dans l'autre hypermarché, banlieue Est, à l'autre bout de la ville. Dico Dico fit la grimace. Corentin aussi. Sam allait devoir demander une mutation.